Je ne vois pas Gaël.
Oui, c'est...
Il y avait un moment, pourquoi ? Ça va aller pour enregistrer tout ça ?
Ouais, bah ça y est.
Ok, d'accord. Bon. Là, tu les fais pas plein, mais... je suppose qu'ils sont essentiels. Et
les meilleurs sont là.
Voilà.
Les meilleurs sont là, c'est la crème de la crème, quand même.
Voilà.
Ah oui, vous avez la fiche synthèse ?
Ouais,
c'est
bon. Ouais.
Ok, parce que du coup, ça
veut dire... Je sais pas qui c'est qui veut...
Ah, tout à l'heure ?
Qui veut faire le script. Un petit peu.
Je sais pas qui veut faire le script.
J'ai pas spécialement envie, mais je veux bien le faire. Si
bon. On verra, ouais. Sinon on essaiera de faire ça là. Oui, donc je disais, en fait, j'étais pas chargé de l'animation dès cet atelier, mais la personne qui était en charge n'a pas pu venir, donc... Du coup, je me retrouve un peu en position. En fait, nous, on s'est posé la question de l'Europe. D'abord, je vais dire d'où je parle. Le mouvement pour l'économie solidaire est membre en France de la chambre française de l'ESS, ESS France. Et le mouvement est aussi membre du Repass Europe. Donc, du coup, on a déjà un travail autour de la question européenne. Et dans le cadre des questions qui nous sont posées, se pose aujourd'hui, au niveau de l'Europe, la volonté de faire avancer la reconnaissance des structures, des entreprises à lucrativité limitée. Un nouveau concept. Alors, sachant que, du coup, il y a une action un peu au niveau européen pour faire reconnaître ces organisations. Donc en gros, c'est les entreprises de l'ESS, elles sont de deux ordres. Hein. Soit elles sont à lucrativité limitée, coopérative, mutuelle, soit elles sont à non-lucrativité, les
non
associations.
Lucrative.
Les associations, les fondations. Et donc du coup, bah, y a une démarche des entreprises de l'ESS à se faire reconnaître dans leur lucrativité limitée, pour pouvoir bénéficier de dispositifs spécifiques d'aide, etc., fiscalité, etc. Ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que, du coup, on se retrouve à essayer de défendre à la fois le concept de non-lucrativité et de lucrativité limitée, avec le risque qu'on ne sait pas comment l'Europe va choisir là-dedans entre non-lucrativité et lucrativité limitée. Le deuxième problème qu'on a au niveau européen, c'est que la définition de la non-lucrativité n'est pas la même selon les États et l'Europe. En France, pour nous, la non-lucrativité, c'est le fait qu'on ne redistribue pas les bénéfices d'une entreprise, ils sont en totalité réinvestis dans l'entreprise. On peut pas, il n'y a pas de redistribution, il n'y a pas d'actionnaire. Pour la communauté européenne, la non-lucrativité, c'est défini comme un service gratuit. Donc c'est pas le fait que l'organisation soit non-lucrative, c'est le fait que les services qu'elle délivre sont gratuits. Donc c'est complètement différent. Déjà, on n'a pas la même définition de la non-lucrativité. Et par ailleurs, en Europe, il y a eu des avancées énormes sur la reconnaissance de statut de l'ESS, notamment il y a un statut des coopératives européennes, mais il n'y a pas de statut associatif européen, ça n'existe pas. Donc les débats un peu, c'est de dire, est-ce qu'on a intérêt à travailler sur un statut, la reconnaissance d'un statut associatif européen, sachant que l'association n'existe pas dans tous les pays d'Europe comme un statut. Qu'est-ce qu'on gagne ou qu'on risque à faire ça? Comment on se débrouille de cette non-reconnaissance de l'Europe, de l'association comme structure qui ne distribue pas les bénéfices, qui ne fait pas de profit. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de cette arrivée d'une pression autour de la lucrativité limitée, dans laquelle on risque, nous, à un moment donné, de se retrouver les uns dans la farce, à partager, à rentrer dans un truc un peu de conflit. En France, on a une situation particulière. Après, ça serait intéressant de voir comment ça se passe en Belgique. En France, le fait d'être non lucratif fait qu'il y a des avantages fiscaux décernés aux associations qui leur permet, un, de défiscaliser pour tous les gens qui font des dons ou qui adhèrent à des associations, ils peuvent avoir une défiscalisation une remise fiscale sur le fait qu'ils ont adhéré ou fait des dons à des associations. Et puis, pour les associations, ça leur permet de ne pas payer les impôts sur les sociétés, de ne pas payer la TVA, donc de ne pas être soumis à l'impôt. Si demain, la non-lucrativité était reconnue au même titre que la lucrativité... la lucrativité limitée était reconnue au même titre que la non-lucrativité, ça poserait sûrement un problème fiscal déjà. Parce qu'ils iront chercher les mêmes avantages, et du coup, est-ce qu'on leur donne, est-ce qu'on élargit l'assiette? On voit bien un peu le bordel. Donc c'est un petit peu ça les enjeux qu'on avait nous au niveau de l'Europe, de se dire, quelle est la bonne stratégie par rapport à l'Europe? Est-ce que c'est d'aller défendre le statut associatif? Est-ce que c'est de défendre une définition de la non-lucrativité qui ne soit pas celle de l'Europe, c'est-à-dire le service gratuit? Et qu'est-ce qu'on fait de cette arrivée massive des entreprises dites sociales qui, en fait, essayent de récupérer les avantages qu'avaient jusqu'à présent les associations, en tout cas, au moins en France? Je ne sais pas du tout la situation en Belgique, et je ne sais pas quel regard il y a en Belgique sur cette question-là.
Peut-être qu'on pourrait aussi avant se présenter, dire un petit peu de où on part, parce qu'on ne sait pas au niveau du groupe. Moi, j'ai pas retenu votre concrétisation.
Alors, moi, je suis Bruno Lanier et je suis délégué national du Mouvement pour l'économie solidaire.
D'accord.
Moi, c'est Geoffroy Carly, je représente le collectif 21 qui est, paraît-il, c'est comme ça que Jean-Baptiste le nomme, une forme d'association sœur en Belgique par rapport aux collectivités des associations citoyennes. Mais dans la vraie vie, je suis directeur des CMR en Belgique. Voilà pour le moment. En tout cas.
D'accord.
Vincent Moutry, j'anime l'Université populaire et citoyenne à Roubaix. Mmh.
Donc Véronique Seyé, moi je suis du planning familial. J'ai été coprésidente nationale pendant quelques années. Voilà. Et je suis aussi membre d'Habitat Participatif.
Ok, je suis Xavier Galland, moi je travaille ici à la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités.
Oui, j'y viens de ton poste, je suis aussi membre de la DM2.
D'accord. Ok. Voilà.
Par rapport à la Belgique, je ne sais pas si je peux dire plus sur ce que tu as dit en réalité, parce que en termes de régime associatif, on est dans les mêmes exemptions, je pense, que celles qui existent en France. Peut-être par rapport à la question des dons et la défiscalisation des dons, il y a des démarches complémentaires à faire, mais globalement, on se retrouve sans impôts sur ce qu'on fait, ce qu'on génère comme activité économique en réalité. On n'est pas nécessairement soumis à la TVA, ça dépend un peu de la nature des activités qu'on fait. Par exemple, si une association est dans de la vente de librairies de manière assez massive, ça dépend des montants.
Ouais,
si ça dépasse 25 000 euros, je pense, eh bien, à ce moment-là, ils doivent être assujettis à la TVA. Je pense qu'on est dans une situation relativement semblable en réalité comme point de départ. En tentant faire un peu l'état des lieux, je me disais, je pense savoir, mais je n'ai pas les ressources là comme ça, qu'au niveau européen, il y a quand même un dépôt. Alors, c'est pas d'une directive, mais c'est dans un autre espace de travail sur un statut européen pour les associations. Oui. Et donc, je me dis, ça vaut peut-être quand même la peine de creuser cette histoire-là. Notre hypothèse à nous, dans le travail qu'on veut faire de protection des associations, étant de les protéger à deux niveaux, dans une Belgique qui est une Belgique avec 9 gouvernements, je passe le détail, mais où on se dit qu'au niveau des entités fédérées, on voudrait faire reconnaître, donc les entités fédérées qui sont les plus de proximité, je dirais, on voudrait faire reconnaître les associations dans un statut d'intérêt économique général pour les protéger d'une série de lois du marché, et donc qu'on puisse dans les textes en Belgique reconnaître toutes les associations agréées par les autorités publiques comme poursuivant des missions d'intérêt général et à ce titre étant exemptées d'une série d'obligations ou d'une série de mises en concurrence, etc. Ça nous paraît jouable. Dans ce qui concerne plutôt les questions fiscales et de reconnaissance, là on est dans un trend maintenant où on est en train d'être versé dans le code des sociétés et des associations, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule logique qui gérerait de manière commune le monde de l'entreprise marchande et le monde associatif. Quelques exceptions près, et donc là ça nous fait même si pratiquement les gens disent que ça ne change pas grand-chose, symboliquement ça change énormément, et qu'aujourd'hui en Belgique, les associations, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça veut dire que ça peut être une entreprise qui, en marge de son activité, crée une association sur le côté, pour émerger à certains marchés sur le côté. L'associatif ne garantit rien, c'est un véhicule. Non. C'est un véhicule administratif qui peut être très bien comme il peut être une horreur en réalité. Donc c'est pas, ça ne garantit rien, le fait d'être association ne garantit rien. Et on se dit qu'au niveau européen, on gagnerait effectivement. Nous, on se dit à travailler sur les deux enjeux. L'enjeu sur les entités fédérées, sur un plan local, d'avoir une reconnaissance qui nous protège, et sur le niveau européen, pour éventuellement émerger aussi un statut qui effectivement nous protégerait des deux côtés, à la fois sur le plan européen, à la fois sur le plan local. Ça, c'est un peu notre... En tout cas, de là où on est, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on a des élections qui se profilent en 2024, et on est en train de faire le tour des partis pour voir comment ils peuvent nous protéger sur le plan local, et que ça fasse partie des programmes électoraux. Il y a une quinzaine d'années, on avait ce qu'on avait appelé la charte associative, qui avait été une forme d'accord entre les partis sur les droits et devoirs des associations, mais aussi pour les placer en relation partenariale avec les autorités publiques, plus qu'en position de sous-traitance ou en position d'allégeance aux autorités publiques, je dirais. Sauf que ça n'est jamais advenu, à mon sens, pour une raison de guerre scolaire, qui est, on a un réseau catholique qui est assez puissant et qui est structuré sous forme d'ASBL, et que donc, s'il donnait trop de droits aux associations, ça déséquilibrerait le rapport de force entre l'enseignement public et l'enseignement catholique. Et donc, il y a eu des blocages, notamment au niveau du Parti Socialiste en Belgique, de faire advenir cette charte associative pour une raison, en réalité, de réseau scolaire. Mmh. Je pense que sur les autres, s'il n'y avait pas eu cette réalité-là, de rapport de force qui existait entre le monde catholique et le monde laïque, je pense qu'on aurait pu avoir cette charte associative. D'accord. Et ça a coincé à l'époque, et je pense que si on devait reprendre un round maintenant, ça coincerait pour les mêmes raisons, parce que la situation n'a pas changé.
Voilà. Pour un éclairage, là, quand tu parles d'une charte, c'est globalement un texte qui est supposé faire référence dans la discussion entre les autorités, les associations.
Ce sera un texte cadre qui balise effectivement les relations, les droits et devoirs des partis, ce qui est légitime de la part de l'autorité en termes de contrôle, en termes de relations, en termes d'injonction, et toutes les voies de recours que les associations pourraient utiliser pour pouvoir effectivement faire valoir leur liberté associative et leur autonomie.
Et donc ça, il y avait un texte,
oui,
un texte qui est existant, mais qui de ce fait est resté juste avant la signature adoption par.
Donc il a été sur le principe adopté par tous les gouvernements francophones, mais dans les faits, il n'a jamais été transcrit dans d'autres textes contraignants. Et donc sur le principe, les gens sont d'accord, mais ça ne s'est jamais traduit dans des règles contraignantes au quotidien. Et donc on peut s'appuyer dessus. Et alors ce qu'on constate aussi quand on fait le travail maintenant, c'est que tout le personnel politique actuel n'a aucune idée de ce texte. Donc c'était une génération il y a 15 ans ou 20 ans, et aujourd'hui, pour eux, ça ne fait plus du tout référence. Là où les gens d'une génération avant peuvent encore y faire référence, aujourd'hui, quand on parle aux partis politiques de ce texte-là, ils ne savent pas de quoi on cause. Il faut leur expliquer ce que c'est, d'où ça vient, et ça fait complètement esbine, quoi. Vous sortez un vieux machin, donc on se dit ok, on n'en parle plus de ce qui existait dans le passé, on va faire semblant qu'on le réinvente en fait, et on va l'appeler autrement, mais en fait ça poursuit les mêmes enjeux, les mêmes objectifs.
Pour le coup là, je trouve que c'est vraiment la situation similaire en France, hein, parce que la fameuse charte des engagements réciproques qui apparaît, ressort, portée, enfin je trouve que tout ce que tu viens de dire s'applique à mon sens exactement à ce qu'on vit en France, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on vient à parler de ce sujet-là, en effet, que le renouvellement des personnels politiques et des personnels techniques, je trouve, et c'est vraiment pas négligeable, les personnels techniques par rapport à ça, parce que je trouve que, comme je trouve que...
Sauf que la charte, elle a été signée en France.
Oui, mais sauf qu'elle n'est pas appliquée.
Enfin, oui, il n'y a pas de contrainte.
Elle avait pour sens, hein, moi c'est comme ça que je la vis, comme le dernier épisode d'ici qui était rappelé hier, hein, mais l'idée c'est qu'elle vienne à se décliner à chacun des échelons, région, pays, communes, et que l'idée c'est que ça puisse faire un texte un peu cadre dans la relation entre chacune des institutions et le monde associatif. Donc ça c'est l'esprit du texte, mais une fois qu'il a été balancé avec son contenu, le dernier épisode ici de vendredi dernier, c'est que à l'échelle Hauts-de-France, le 1er juillet, lors de l'anniversaire du 1er juillet, se tenait le rendez-vous régional à Arras. Je ne sais pas si vous étiez, vous avez entendu ce que rappelait hier Denis Davin, ici dans cette salle. Denis Davin, c'est le directeur de la maison des associations de Tourcoing. Moi, je n'étais pas là, j'étais pas à cette séquence de vendredi dernier, mais le texte devait être adopté avec, enfin, adopté avec les trois signatures, donc le représentant de la région Hauts-de-France, les services de l'État et le mouvement associatif. Hauts-de-France au titre de tout le monde associatif. Mais le préfet a repris le texte, qui n'est donc pas celui qui est discuté, il a intégré le contrat d'engagement républicain.
J'allais dire, on a eu la loi séparatisme entre deux. Quoi.
Et donc, le préfet a imposé que ce CER vienne s'ajouter, s'inclure dans le texte. Et donc, il y a eu un petit événement politique quand même, vendredi dernier, puisque d'ailleurs ni la région, mais en tout cas les associations ont dit mais c'est pas le texte sur lequel on est tombé d'accord et qu'on s'apprêtait à signer. Puisqu'il est fait en plus dans ce texte référence à l'application et reconnaissance du droit français et de son application juste et totale, il n'y a pas lieu de venir ajouter ce
poney
de l'ultralibéralisme que c'est ce CER là-dedans. Enfin bref. Mais donc, tout ça pour dire que à un moment, là où dans les différents espaces où ça se met à travailler en prenant référence à ce texte, en faisant tout le travail pour réacculturer des gens qui en sont très éloignés, vous dites, ouais, bon, au final, pourquoi pas, allez, allons-y. Là, le dernier épisode, c'est qu'en fait, patatras, ça tombe à nouveau. Mmh. Et je pense que là, pour le coup, en France, avec ce CER, je ne sais pas si tu es au courant de ce truc-là, mais le machin qui est arrivé très vite, là, à la fin d'année 2021, mais je pense que heureusement, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement associatif dans sa généralité est quand même assez en attention, mais en fait, en même temps, il est en train d'être obligé d'être signé par la petite porte dans différents endroits. Un peu, mais en tout cas, ce truc-là, il vient, et en tout cas, je trouve qu'il vient complètement biaiser en fait cet espace d'entente que peut constituer cette charte, quoi. Que pourrait constituer cette charte, puisqu'elle est le fruit quand même de travaux en différents endroits qui arrivent à un moment de maturité. Puis en fait, patatras, le CER, il vient là-dedans. Et puis en fait, je trouve que ça décrivilise les années de travail, d'échange pour se dire oui, un texte qui ferait référence.
Après, à la différence des Belges, on a au moins, on peut s'appuyer sur le fait qu'à un moment, cette charte, elle a été co-signée par le gouvernement français et le mouvement associatif.
Mais entre-temps, on a eu le séparatisme, on va avoir Marianne Schiappa qui a été quand même une actrice de ce CER et qui arrive à la vie associative comme ministre, sous-ministre.
Non, je ne dis pas que le combat est...
Je me suis coltinée sur les droits des femmes et sur l'engagement républicain, je peux vous dire qu'elle est coriace. Il va falloir faire très très attention à ça parce que c'est une loi qui peut être vraiment raciste à certains moments. Et elle a ça en tête. Elle est proche du printemps républicain quand même. Moi, je suis très inquiète par rapport à ça.
Oui.
Et sur la question des financements, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller vers un statut des associations au niveau européen, à deux niveaux. D'une part, parce qu'effectivement, comme tu disais, dans l'économie sociale et solidaire, on a des entreprises sociales qui ont pris ce statut-là. Mais pour développer, des services publics qui sont plus, pour développer des services qui sont plus
des services publics,
de base en fait, accessibles à toute la population. Bon, on a vu plein de choses par rapport à ça, mais quand on voit je sais pas s'il y a quelqu'un du groupe SOS ici, mais il y a quand même
des choses
à faire.
Non, mais c'est pas grave. Ça m'étonnerait qu'au cas qu'il y ait des gens du groupe SOS.
Donc je pense que quand on voit ce qui se passe à ce niveau-là, c'est quand même assez grave. Et puis si on parle du statut des associations, il y a aussi toute la question de l'accès à des financements européens. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas un gros groupe ou une grosse asso, c'est extrêmement compliqué d'y avoir accès. Et moi, j'avoue qu'on en a fait une expérience très amère au niveau du planning, parce que les règles ont changé entre deux, parce qu'on a fait un programme avec des femmes migrantes, et qu'à la fin, il aurait fallu qu'on donne les noms de toutes les femmes sans papier pour lesquelles on avait travaillé. On a dit on refuse, parce que c'est pas nominatif, et qu'au départ, l'idée, c'était de travailler avec des groupes de femmes en mixité, quel que soit leur statut. On n'en avait rien à foutre qu'elles aient des papiers ou qu'elles aient pas de papiers. Et on n'a jamais demandé les papiers d'identité des personnes. Et à la fin, il aurait fallu qu'on donne l'identité des personnes. Et on a refusé. Donc on a dû rendre des fonds européens. Donc il y a des, des critères qui sont absolument, j'ai envie de dire, enfin, qui ont changé en cours de route, parce que sur le programme, c'était au départ un programme sur les mariages forcés, qui est devenu un programme sur les femmes.
L'UFSE ?
Ouais. Un programme sur les femmes victimes de violences. Donc, dans les femmes victimes de violences, il y a des femmes qui sont en couple en France, mais qui sont issues d'immigration. Et puis, il y a des femmes sans papier qui sont arrivées parce qu'elles ont fui des violences. Enfin, il y a vraiment tout un tas de statuts. Et je pense, bon, c'est anecdotique le programme. Enfin, c'est pas anecdotique pour les femmes, mais c'est un programme vraiment important. Mais je pense que dans le financement européen aujourd'hui, moi, je connais plein d'assos de chez nous qui, du coup, n'ont pas accès à ça parce que c'est hyper compliqué. Enfin, si on n'est pas dans un gros machin qui peut gérer, on ne peut pas y avoir accès. Or, on est vraiment, à mon avis, dans les statuts. Enfin, c'est vraiment toute la reconnaissance et, à mon avis, la transnationalité à travailler entre des réseaux qui travaillent sur ces sujets-là. Mmh. Et un autre sujet, moi, sur lequel je travaille, qui sont tous les mouvements anti-genre, anti-choix, tous ceux qui sont contre l'avortement, qui sont bien organisés au niveau européen, avec des financements. Hein, je pense à des associations comme Ordo Iuris, qui ont fait la loi anti-avortement en Pologne et qui sont très bien organisés entre eux, avec la Roumanie, avec avec Orban, là, toute la bande d'Orban là derrière. Ils sont en train de démolir tout ce qui a été construit, qui viennent d'ouvrir d'ailleurs une antenne en Ukraine. Voilà. Qui avant avait essentiellement le financement venant des États-Unis et des oligarques russes, et qui maintenant, pour moitié, ont leur financement qui vient d'Europe, sous des statuts, sous des dons défiscalisés venant de grandes entreprises, pour ne pas le nommer, ou du Vatican, mais aussi via des associations qui se présentent comme étant des associations
citoyennes.
Citoyennes, voilà, c'est ça. Donc je pense qu'on a un gros travail à faire aussi sur ce sujet-là, parce que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Quoi. Mmh. Il y a une enquête qui vient de sortir, une étude qui a été faite par le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs, qui dit qu'aujourd'hui, dans ce qu'il voit, parce qu'il dit « tip of the iceberg », hein, ce qu'il y a au-dessus, c'est de la moitié des financements sont des financements européens aujourd'hui sur ces organismes qui, au début, n'avaient qu'un petit pourcentage de financement européen. Quoi. Donc on a du boulot à faire là-dessus aussi, je pense, vraiment. Donc pour la reconnaissance à la fois d'un statut européen, d'un certain nombre de réseaux, citoyens mais pro-choix et pro-démocratiques, et puis sur l'accès à ces financements européens pour ces organisations. Quoi.
Oui, moi, en t'entendant, je me dis, je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux niveaux. Il y a un niveau qui est un niveau... j'allais dire organisationnel ou administratif, ouais. Qui est comment est-ce qu'on a accès à des financements européens et à quelles conditions. Et effectivement, je pense que ce sont des épreuves en fait administratives complexes et qui sont prises d'assaut par une série de technocrates peuvent manœuvrer cette histoire. Et je me dis, il y a la question éthique qui est effectivement comment est-ce qu'on traite les publics dans ces dispositifs-là. Parce que si tu parles de ça, mais sur le FSE aujourd'hui aussi, à un moment donné, on te demande est-ce que les gens ils sont handicapés, drogués, machin. Ouais. Tu devrais pouvoir taguer les gens en fonction de ça pour pouvoir dire que tu t'occupes vraiment des publics précarisés et tu devrais poser ces questions-là à tes publics. Nous, on fait de l'insertion socioprofessionnelle sur Bruxelles et tu dis mais on ne peut pas demander ça, aux gens, on ne veut pas donner ces informations-là. Et l'argumentaire, je pense, qui est développé par les administrations, c'est de dire nous, ça nous permet de faire des statistiques, de dire qu'on s'occupe du bon public, etc. Et tu dis, ouais, mais enfin, fatalement, on s'occupe du bon public. Enfin, je dis, de manière, est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il y a autant de proportions de polyhandicapés, c'est-à-dire ils sont à la fois drogués, à la fois en quête d'identité, à la fois perdus sur tel ou tel aspect, enfin, j'en sais rien, et en plus pauvres, c'est vraiment malheureux. Enfin, donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on omette dans la revendication européenne, les questions éthiques, qu'est-ce qu'on reconnaît ou qu'est-ce qu'on ne reconnaît pas, et comment est-ce qu'on traite les gens. Quoi.
Ça pose la question de l'évaluation. Parce qu'en
il
n'y
a pas que l'éthique. Enfin, pour moi, il y a aussi la question, enfin, juste pour compléter, pour moi, il y a une troisième dimension, c'est en référence à des valeurs européennes aussi. Mmh. Parce que je pense qu'il y a ça aussi derrière. Par exemple, la question d'égalité de genre, la question de l'accueil, etc. Or là, il y a aussi du flicage par rapport à ça. Enfin, dans la question des sans-papiers, il y avait ça derrière. Parce que qui c'est qui faisait des évaluations dont tu parles justement Nous, le programme, il s'est déroulé super bien. Hein. On a même été appelés à témoigner, etc. C'est au moment d'évaluation,
ben quand
on a
dit
des papiers, etc., que là, on s'est rendu compte que non. Puis c'était le ministère de l'Intérieur qui n'aurait jamais ça. Aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. La question qui est posée, là, c'est qui décide des critères d'évaluation. On s'est aperçu, par exemple, dans les projets européens, que des fois, les États étaient plus soucieux et plus demander des choses que ne demandait pas l'Europe.
Oui, oui. Donc, les agences nationales
qui rajoutent des couches. Quoi. La question, c'est comment nous, on participe à l'élaboration des critères d'évaluation qui sont mis en place sur les fonds européens. Ça, par exemple, c'est une vraie question. On ne l'aborde pas. Moi, en vous écoutant, je me disais, il y a quand même une question qui par rapport à ce que tu disais sur les services d'intérêt généraux... comment on sort on est protégé des dispositifs autour de ça. Je me dis, il y a quand même une question qui est assez intéressante. J'aimerais bien savoir s'il y a une définition européenne de l'intérêt général.
Ah, ils ont fait quand même des services d'intérêt économique général et des services d'intérêt général.
Voilà.
Donc il y a des définitions, moi je ne les connais pas comme ça, mais...
Parce qu'en France, par exemple, dans le cadre de la loi Hamon, la loi sur l'ESS, Il a été déjà plusieurs choses ont été reconnues. Ils ont inscrit la subvention comme dans la loi, ce qui fait que du coup, avant d'un point de vue européen, quand tu touchais des subventions, il fallait que tu justifies, c'était compliqué, etc. Là, le fait que ce soit reconnu la subvention comme possible de l'État vers les organisations de l'ESS, ça a simplifié. Et ils ont défini les règles pour sortir justement. Les entreprises de l'ESS, des règles liées, enfin pas toutes, mais au moins les associations, des règles liées à la définition des services d'intérêt généraux. Donc du coup, ils ont fait ce travail-là en France. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ailleurs, mais moi je me dis une vraie question qui est posée aujourd'hui, puisque avec la montée en puissance des Bicorp en Europe et donc des entreprises à mission en France, et la montée en puissance de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire des entreprises de statut ESUS en France, les coopératives, etc., qui eux sont contraints sur des redistributions des bénéfices, etc., ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. La montée en puissance de ces gens-là est en train de dire, c'est nous aussi on est dans le champ de l'intérêt général, et nous aussi on doit pouvoir bénéficier des avantages donnés aux associations. Donc je sais que quand on a approché le mouvement associatif au niveau du RIPES Europe, le mouvement associatif en France, et qu'on leur a posé la question, parce qu'eux, ils voulaient qu'on travaille ensemble sur la question de comment on gérait cette arrivée de la lucrativité limitée pour que ça ne soit pas contre-productif pour les associations à but non lucratif. Et moi, je les ai tout de suite interrogés sur « Ok, on fait ça, mais on ne sait pas quelle va être l'interprétation européenne de ces notions ». Donc on ne sait pas ce qu'on va gagner ou perdre, on n'a aucune vision. Je lui dis, est-ce que dans le même temps, on n'a pas intérêt à appuyer ce statut qui est quand même, ça fait longtemps qu'on parle d'un statut associatif européen et qu'on ne le voit pas venir, est-ce qu'on ne doit pas appuyer de ce côté-là? J'ai senti beaucoup de réticence de la part du mouvement associatif français.
Ils motivaient leur résistance.
Ben, eux, ils disent que à vouloir normaliser, on risque de perdre beaucoup parce qu'il y a beaucoup de pays où le statut associatif n'existe pas en tant que tel. Et donc, si au niveau européen on définit un statut, ça veut dire qu'on va devoir se mettre d'accord entre tous les pays européens et qu'on va avoir un truc qui va être loin de l'association loi 1901 ou loi 1921.
Oui, c'est ça.
Et donc, du coup, ils disent, on ne sait pas où. Est-ce qu'on prend pas plus de risques à faire ça qu'on en gagne. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai pas lu ce qui avait été fait sur le dépôt d'un projet, mais ce serait intéressant d'aller voir qui l'a porté et ce qu'il y a dedans, quoi.
Et parce qu'on est passé un peu vite tout à l'heure, cette question des définitions différentes entre la non-lucrativité qui serait la mise à disposition de services gratuits versus non-redistribution des bénéfices à des actionnaires. Est-ce qu'il y a moyen de sortir de ce... Parce que c'est quand même très différent. Bon, moi, quand on diminue le non lucratif, c'est plutôt le premier versant, c'est-à-dire qu'on ne redistribue pas le pognon gagné, on le réaffecte à l'objet et on développe le projet en réalité. Mais le service gratuit, ça n'a rien à voir.
Ben non. Et je ne sais pas d'où émane. Je pense que cette définition, c'est une définition qui a été apportée par les services techniques de l'Europe. Je ne pense pas qu'il y ait eu de. C'est pas quelque chose qui a été statué, quoi.
Après, il y a des associations qui fonctionnent beaucoup, enfin en France, sur le service gratuit, donc est-ce que ça vient de là ? Il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent sur ce statut-là, en fait. Hein.
C'est de moins en moins vrai, d'ailleurs.
Ouais, mais ça dépend. Enfin, il y a une partie de l'activité qui est quand même en service gratuit. Ou pris autrement. Enfin. Mmh. Mais je vois, par exemple, dans un domaine où c'est pas vrai, justement, je pense à la petite enfance, qui, enfin, il y a des associations. Enfin, j'ai travaillé avant dans le domaine de la petite enfance, on l'a développé, et ça a été un apport de la région Nord-Pas-de-Calais de dire à l'époque, hein, je ne sais pas encore les Hauts-de-France, de dire les services petite enfance doivent être des services de proximité, okay. Et donc on les développe à but non lucratif, mais en donnant, en faisant payer sur des tarifs dégressifs les modes de garde, mais en développant aussi des services gratuits. Je pense notamment dans le domaine culturel. On essayait d'ouvrir sur le quartier des activités culturelles, multiculturelles, etc. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir la mixité entre de la gratuité et du service payant, mais en fonction des revenus des personnes. En gros, c'est ça, hein, avec des grilles tarifaires qui permettaient l'accessibilité de tout le monde. Le critère, c'était l'accessibilité d'un service de la petite enfance, considérant que ça devait être du service public et que les villes ne le faisaient pas forcément là. Et en fait, on a vu arriver plein de boîtes qui ont dit « mais nous, on va faire la même chose », etc. et qui se sont développées sous une forme très lucrative, finalement. Mmh. Un peu comme on le voit chez les personnes âgées, quoi. Des boîtes qui sont des entreprises sociales et qui se sont créées là-dessus, quoi. Et donc c'est compliqué. Enfin, donc il y a effectivement la gratuité du service ou l'accessibilité du service à tout le monde, quoi, c'est ça. Au revoir.
Moi je pense qu'en travaillant sur le statut association, on règle cette histoire-là, parce que du coup en faisant reconnaître un statut d'association, on parle bien d'une structure qui ne redistribue pas de bénéfices, qui a un but non lucratif. Et du coup, ça serait une manière de faire avancer.
Oui, sauf que nous, notre point de vue, en tout cas, tel que c'est structuré chez nous, ça ne suffit pas, en fait.
Non. Ça ne suffit pas.
De manière très concrète, j'ai un pote, il a une boîte d'informatique, il fait de la formation en informatique. Il a une boîte qui a un nom sous un statut de privé, et puis à côté, il a créé une ASBL avec sa femme et son frère, enfin, grosso modo, en se disant, pour avoir l'accès à certains marchés, je dois être constitué en association sans but lucratif.
Ouais, en fait,
et en fait, que ce soit l'un ou l'autre, il met dans une poche ou dans une autre, en fonction de l'opportunité qui se présente. Mais de fait, il va se rémunérer d'une manière ou d'une autre, et le statut d'association ne garantit que dalle, quoi.
En fait, lui, il fait ça juste pour bénéficier des appels d'offres qui sont réservés aux associations. Il y en a beaucoup qui font ça.
Et à sa place, je serais pareil, hein, je pense.
Oui, oui. Il y en a beaucoup qui font ça en France aussi.
Parce qu'à un moment donné, je sais que
c'est la question de l'éthique qui revient.
Oui, oui.
Vraiment, clairement.
Et donc, nous, à un moment donné, on fait quand même
C'est pas qu'une question d'éthique, parce que moi, j'ai une entreprise commerciale, je suis porté par des valeurs éthiques. J'ai une gestion de mon personnel, de rémunération, je mets en place tout ça. À un moment donné, parce que je suis société commerciale, je ne peux pas réaliser une action qui correspond complètement à ma mission de sensibilisation des gamins à l'informatique libre. Je prends un exemple comme ça. Je me dis c'est trop con, hein, je vais monter l'association de soutien de mon entreprise qui soutient le projet que j'ai dans mon entreprise, et c'est l'association de soutien qui va déposer parce qu'elle est. Donc c'est pas. Je trouve que c'est même pas. C'est pas un problème d'éthique. C'est tout à fait. C'est un problème juridique, de statut juridique, d'ouverture à des droits, etc. La question qui serait posée, et plus posée, c'est quelle est la finalité de l'entreprise qui fait ça, quoi. C'est-à-dire quel est le projet qu'il y a derrière.
Ouais, mais la finalité, pour moi, elle est déclarative, hein, en réalité. Enfin, vous parliez du groupe SOS. Voilà, on peut dire, a priori, si on les présente succinctement, moi je ne les connais pas bien, mais présente succinctement, ils viennent en aide aux populations, ils professionnalisent une série de choses, ils reprennent des trucs qui ne vont pas bien, ils renforcent les structures, etc.
Enfin, ils écrasent les structures.
Oui, ils écrasent, mais.
Oui, mais non, mais
si on leur laisse raconter leur récit, je pense qu'ils pourraient présenter les choses de manière assez. Avec un accent social, avec un accent d'entrepreneuriat social, etc., et de déficience dans les politiques sociales. Donc. Je me dis, nous, quand on revendique à un moment donné des statuts protégés pour les associations, mais là, du coup, on va intervenir les autorités publiques, Et donc ça vient interroger la relation qu'on entretient avec les autorités publiques, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas donner un statut particulier aux associations qui sont agréées, reconnues à certains égards? Comme il y a la question de l'utilité publique en France, à un moment donné, il y a une série de structures qui sont reconnues d'utilité publique, est-ce qu'il n'y a pas des reconnaissances ou des agréments ou des je ne sais pas quoi qui font que les associations sont versées dans un champ qui n'est pas simplement les individus tout seuls, enfin, les individus ou les associations toutes seules qui disent « moi j'en suis ou j'en suis pas ». Mais ça veut dire que c'est l'autorité publique qui décide du coup.
Oui, c'est l'agré. Parce que la reconnaissance d'utilité publique, par exemple, pour l'avoir, il ne faut pas avoir trop de subventions non plus. Si on a trop de subventions, on n'a pas droit à la reconnaissance d'utilité publique.
Ah, oui, il ne faut pas avoir de salariés dans le conseil d'administration, par exemple.
Oui, non, mais ça, c'est pas compliqué. Mais au-delà de ça, dans les financements, donc ça veut dire que, par exemple, vous avez des associations qui sont reconnues d'utilité publique parce qu'elles ont plein de financements de philanthropes ou de legs ou de dons, etc. Je pense à des associations clairement, pour nous, ce qui nous concerne, anti-genre et anti-choix, qui ont une reconnaissance d'utilité publique. Alors qu'elles font, et que le planning ne l'a pas, parce qu'on a trop de subventions, parce qu'effectivement, on fournit du service public, parce qu'on travaille avec des conseils départementaux, etc., pour donner des services gratuits à une population qui aujourd'hui n'accéderait pas à des soins en matière de santé sexuelle, parce qu'on mène des programmes sur la question de l'accès aux soins et de l'accès à des droits, enfin, etc., sur la question d'accès aux droits. Et donc, par exemple, on...
En fait, il y a une question qui me vient, parce que est-ce que ça ne relève pas à un moment même du pouvoir,
en place.
De l'énorme pouvoir que peut avoir l'administration dans un certain nombre de situations. Et tu vois, et en faisant globalement fi d'une règle qui s'applique, moi je vais vous donner l'exemple, donc nous, la Bresse, ici, on a fait la... Donc, tout à l'heure, tu cites en effet le fait qu'on puisse en effet recevoir des dons, les défiscaliser, et que c'est quelque chose d'à peu près acquis pour toutes les associations.
Sauf sous réserve d'être d'utilité publique, parce que sinon tu ne peux pas recevoir de legs, par exemple.
Tu veux pas dire d'être d'intérêt général.
Ouais.
D'intérêt général.
Ouais. Or, la question de la reconnaissance de l'intérêt général, donc, nous, la Bresse, hein, vous voyez à peu près, je fais en rapide, hein, mais le. Voilà, une maison, une animation de réseau et des ressources. C'est ça le sujet. Au service des questions de nature, environnement, citoyenneté. Et de ce fait, puisqu'il y avait un doute sur... Il y avait un doute, nous avons fait la demande du rescrit fiscal.
Oui, rescrit fiscal.
Et en faisant la demande du rescrit fiscal, en fait, on s'est vu opposer un refus. On s'est vu opposer un refus sur lequel nous avons présenté un recours, donc on avait trois pages, le refus étant globalement argumenté sur le fait que comme on est un réseau et qu'on s'adresse à nos membres, et la lecture étant restrictive, hein, de dire vous vous adressez à vos associations adhérentes, donc vous avez un public captif, donc vous n'êtes pas d'intérêt général.
Vous
n'êtes pas ouvert, vous vous adressez à vos associations. Voilà. Vous devez vous adresser au grand public. Bah, on s'adresse au grand public par le canal de l'association et au-delà. Non, mais c'est pas si évident que ça. Donc, je vous fais quand même un rapide historique de l'affaire. On fait un recours. Donc, ça veut dire que pour le moment, nous n'avons de la part de l'administration qu'un courrier qui dit on vous refuse le rescrit. On fait un recours. On y va avec Philippe Paris. Vous avez vu hier le président de la MAS, c'était à ce moment-là. Trésorier. Donc on est reçu par un aéropage de grands pontes de l'administration fiscale. Hein. Ils sont cinq devant nous sans jamais se présenter, bien évidemment. Ils nous regardent de très haut parce que de toute façon, ils nous voient arriver comme un réseau d'associations écolo-citoyennes, machin. On défend le morceau.
Gauchiste.
Ouais, voilà, un pharmacie gauchiste, quoi, globalement. Hein. Donc, sortir. Donc, ils veulent bien entendre que finalement, un certain nombre de nos actions sont quand même à l'adresse du grand public, donc de l'intérêt général, puisque les adhérents des assos, c'est pas du grand public, c'est des adhérents d'assos. Alors là, tu te dis, mais définis-moi quand même bien ce que c'est que le grand public. Hein.
Ouais.
Ben, c'est des gens qui ne sont pas adhérents de vos assos.
Les gens qui sont nulle part, qui veulent être nulle part.
Et non, mais c'est ça. Donc, bon. Et donc, on en sort de là. Dans le,
c'est nous le grand public.
Dans le verbe, on en sort en disant vos activités, comme autour de votre centre de documentation ouvert au public, un certain nombre d'actions. Mais sont considérés comme d'intérêt général, un certain nombre d'autres ne le sont pas. Et donc, nous allons vous notifier cela par écrit, et ça fera foi. Sauf que depuis cette audience, rien ne nous a été signifié par écrit, Donc nous avons réinterpellé les mêmes contrôleurs pour dire qu'il était au sortir de l'audience, nous devions avoir une notification de ce qui, dans notre projet, est donc d'intérêt reconnu, d'intérêt général par les services fiscaux. Et nous, comme il n'y avait pas de réponse, nous avons renvoyé un courrier pour dire votre silence au vu de la loi, votre silence passé deux mois suite à notre sollicitation
vaut
agrément. Donc nous considérons que nous sommes reconnus d'intérêt général sur les activités de presse. Mais en fait, en vrai, en disant ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça fait partie d'un des sujets qu'on traite régulièrement au CER, mais nous ne sommes titulaires, enfin nous n'avons dans notre besace qu'un seul et unique courrier de trois pages qui nous dit que nous ne sommes pas reconnu d'intérêt général et que nous ne pouvons pas mobiliser le rescrit fiscal. Mmh. Et donc, en fait, moi, c'est des discussions que chaque fois j'ai avec le CER, je dis, on est dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on remet des reçus, mais on est dans une démarche qui est quand même assez bridée, au vu de ce qui est quand même une espèce d'épée de Damoclès, qui serait celle de dire, mais à un moment, on a bien les courriers que nous avons adressés pour dire que nous reconnaissons que leur silence vaut. Acte, mais en vrai, le seul et unique courrier signé d'un inspecteur des finances, c'est le seul qui nous dit « vous n'y avez pas droit ». Et en fait, je trouve que là-dedans, c'est pour ça que c'est le pouvoir administratif qui est quand même énorme. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, là où pour le coup, le fait d'être chasse, les anti-IVG ou je sais pas quoi, on réussit à passer par je ne sais pas quel canal pour s'obtenir des...
Fondation Jérôme Lejeune, par exemple, pour ne pas la citer.
Comme par hasard,
c'est travail sur la trisomie, mais de fait, c'est anti-avortement et qui finance des réseaux anti-avortement, qui reçoit du fric du Puy du Fou de Philippe de Villiers, par exemple, entre autres et d'autres. Voilà.
Donc
on est en plein là-dedans, quoi. C'est-à-dire que ce sont des associations qui sont financées par l'État, qui bénéficient d'un statut d'intérêt public. Et qui ont des financements d'entreprises, etc. quoi. Et qui sont non seulement d'intérêt général, mais reconnus d'utilité publique, donc qui peuvent avoir des legs, des dons, etc., etc. Et par exemple, moi j'étais la semaine dernière en réunion européenne avec des associations polonaises qui, elles, disent très clairement nous, on ne veut pas de ce contrôle de l'État. Et ils ne veulent même pas demander un financement de l'État parce qu'ils disent on ne sait même pas. Ce financement de l'État, d'où il vient, comment il vient et comment ça va nous retomber sur le coin de la gueule un jour ou l'autre, dans les actions qu'on fait. Donc ils sont dans une position où, ne reconnaissant pas du tout l'État antidémocratique, les juges anticonstitutionnels qui ont été nommés, etc., qui font les lois aujourd'hui, ils disent, nous, très clairement, nous ne voulons surtout pas de financement de l'État. Parce que c'est trop dangereux dans le contexte politique actuel, quoi. Et donc, c'est pour ça, c'est compliqué, au niveau... Et c'est des associations qui, du coup, vivent avec des financements ou des dons de Polonais qui croient à ce qu'ils font, ou d'extérieur. Et donc, d'où la nécessité... Enfin, quand on parlait des financements européens, c'était l'importance que les financements européens ne passent pas que par les États, que l'Europe puisse financer directement des structures sur des critères... qui s'appuie sur les valeurs européennes.
Elle le fait
sur
déjà.
Sur des critères démocratiques, etc., elle sans passer déjà. Par les États. Quoi.
Alors, elle passe toujours par des...
agences nationales.
Des agences nationales.
Eh bien oui, ben, c'est ça le problème. Ouh. En Pologne...
Mais les agences nationales, ce n'est pas l'État, c'est des agences nationales.
Oui, ben, les agences nationales, enfin, je veux dire, même les structures démocratiques polonaises...
En France, elles passent aussi par, selon les fonds, le FSE, ça passe par là. Mais par exemple, tous les fonds régionaux, ça passe par les collectivités locales. Et là, ils ont simplifié, parce que maintenant, c'est l'Europe et les collectivités locales. Mais en France, avant, tout passait par... C'était décliné par l'État, puis les régions, et avec sur les fédères, ça a été... des ratés énormes.
Okay, oui, nous, on a eu une mission qui est confiée à l'État, ou à un service de l'État, quel que soit le niveau de pouvoir, par l'Europe, pour opérer les choses. Donc l'État reprend la main dans une certaine mesure.
Mais bien sûr.
La manière dont ils opèrent les contrôles, la manière dont ils regardent la réalité que tu décris, c'est au travers... Ce sont des fonctionnaires. Enfin, en tout cas, chez nous, le FSE est traité par des fonctionnaires de l'État.
Oui, et ben, chez nous, c'est comme ça. Et même, c'est plus grave, puisisqu'il y a une délégation dans les différentes strates. En PACA, il y a une année, donc en région sud de France, là, il y a une année où ils sont rentrés en conflit entre la région et l'État français sur la manière d'interpréter les financements européens en France. Résultat, la région a décidé d'invalider les conventions qu'elle avait passées avec un certain nombre d'acteurs, nous on faisait partie, on avait un FEDER avec, je sais pas, il y a 250 000 euros de financement européen, tu vois. Et on a commencé le projet, puisque le projet, tout était prêt. La convention, elle était au président de la région, qui n'avait qu'à signer en bas. Donc les services nous ont dit, c'est bon, ça a été voté, allez-y, lancez le programme. On lance un programme, discussion pendant un an, autour de est-ce qu'on signe ou qu'on signe pas. Et à la fin, ils décident de ne pas signer les conventions, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'État français. L'Europe, là-dedans, n'avait rien à faire. C'était des fonds européens, mais c'est entre une strate française qui ne s'entendait pas. Du coup, ils ont abandonné des projets, et puis les projets sur lesquels ils ne pouvaient pas totalement abandonner, c'est les fonds régionaux qui ont financé l'activité qui avait été projetée sur les financements européens. C'est quand même, quand tu vois ça, c'est scandaleux. Donc on ne dépense pas l'argent de l'Europe et on rajoute sur les financements de la région des projets qui n'étaient pas censés être financés par elle. C'est assez incroyable. Donc oui, il y a ces difficultés.
Non, mais c'est pour
la mise en place, mais ils ont quand même fait beaucoup d'efforts de simplification dessus.
Oui, mais c'est pas là, c'est pas simplement.
Et ils ont essayé de faire sauter les barrières. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus en cascade l'État et la région. C'est soit la collectivité régionale, soit l'État. Mais tu as toujours des agents français qui gèrent les fonds.
Mais c'est dans des pays autoritaires où l'État verrouille tout et contrôle tout et nomme des fonctionnaires, comment font les structures démocratiques aujourd'hui pour pouvoir fonctionner et rendre des services à la population que l'État ne rend plus? Enfin, pour moi, c'est vraiment une question de solidarité européenne, là, pour le coup, basée sur des valeurs européennes. Enfin, pour moi, là...
Et moi, j'ai le sentiment que c'est un des effets d'une forme de dépolitisation des projets. C'est-à-dire qu'on les a technocratisés,
tout à fait.
En enlevant, du coup, la question, quand tu dis référence aux valeurs européennes, tu dis, mais comment est-ce possible que des associations soient reconnues d'utilité publique alors que manifestement elles ne défendent pas des droits, au contraire elles vont à la restriction des droits.
Exactement.
Il y a un non-sens, dans l'utilité publique, ne peut pas soutenir ça. Enfin, il y a quelque chose là que je trouve il faut repolitiser cette question là pour qu'on puisse avoir un arbitrage politique et pas un arbitrage technique.
C'est ça, tout à fait. Mais si pas que je fais de la gestion technocratique. Ouais, quoi. Ouais.
Voilà. Au départ, tu dis la non-lucrativité, ça ne suffit pas. La finalité, le fait de remplir une mission d'utilité sociale, ça ne suffit pas. Il faut aller vers l'agrément intérêt général.
Ouais, mais en même temps,
avec une référence à la charte des droits fondamentaux européenne, par exemple. La charte,
Mais on voit bien que la reconnaissance d'utilité publique ou d'intérêt général, elle n'est pas si simple, la preuve. Tu retombes dans les mains d'interprétation par les. Alors là, on n'est plus par l'interprétation par les préfectures, on est par l'interprétation par les services fiscaux en France. Déjà, moi, je trouve que c'est un peu incroyable, c'est que la seule loi qui définit l'intérêt, qui définit la non-lucrativité en France, alors maintenant, c'est un peu dans la loi de 2014, mais avant cette loi-là, c'est la seule loi, c'est le code fiscal, quoi. C'est le code fiscal qui définit la
gratuité en France. Au début des années 2000, là, quand il y a eu une clarification fiscale des associations avec la fameuse... Le premier analyse était donc la non-lucrativité de le côté désintéressé de la gestion.
Ouais.
Le deuxième point était...
Non-concurrence.
Non, parce que ça, c'était c'était la règle des 4P, donc il fallait examiner le sujet. Donc il y avait non-lucrativité... gestion des intéressés, non lucrativité. Enfin, en fait,
c'est ça.
Un peu la même chose.
Gestion des intéressés et lucrativité.
Et ensuite, l'analyse des 4P, prix, produit, public, publicité. Et en effet, si tu fais cette règle, vise à ce que on regarde ce que tu proposes, à quel public tu t'adresses, quel est le prix que tu pratiques, et quelle est la publicité à laquelle tu pratiques. C'est-à-dire que si tu as une publicité. Ça peut pousser, une fois que tu as passé les. S'il y a un doute sur la gestion des intéressés, en tout cas, ça passe à l'analyse qui suit. Et typiquement, c'est tout secteur, petite enfance, choses comme ça, qui vient à tomber clairement dans une situation où tu dis, certes, le véhicule qui est utilisé, c'est une association, mais il y a lucrativité de l'activité, et en effet, au vu des tarifs pratiqués, vous êtes soumis à l'application de l'impôt sur les sociétés, et ça n'y coupe pas. Mais en fait, moi, là, j'avoue que dans la discussion que nous avons, c'est que cette intrication-là, parce que au fond du sujet, là, ce dont on cause, pour moi, à ce stade, hein, c'est comment on accède à des moyens au service de nos projets associatifs.
C'est ça, ouais.
C'est ça le sujet. Et en fait, on est tenu de passer un temps fantastique là, ça nous occupe là, ces quarts d'heure-là. Mais en fait, on est occupé à défendre nos projets associatifs. Mais au vu de toute la justesse, le bien fondé de ces projets associatifs, malgré tout cela, au final, nous n'accédons pas à des moyens qui, au titre des politiques publiques, devraient nous être
dédiés.
En tout cas, dédiés. En tout cas, nous devrions pouvoir y accéder sans devoir montrer 27 fois que, en effet, c'est bien avec ce motif-là que nous souhaitons les mobiliser, quoi. Bon, donc c'est un petit pas de côté par rapport à notre discussion, mais j'avoue qu'on est
en plein dans le sujet, dans ce que tu disais. Enfin, c'est
Je pense que dans la dimension.
L'éloignement entre des valeurs, enfin,
ouais, de. La dimension politique, je comprends.
Politique,
je suis d'accord avec
ça. Voilà, et puis une technocratie qui regarde les structures.
Des conformités.
Mais peu importe ce que tu mets dedans.
Au-delà de ça, de défendre des moyens pour. Il y a une dimension politique forte qui est portée par les associations, c'est de dire aujourd'hui on peut développer des activités d'échange, d'action sociale, etc., en dehors de l'entreprise. Or, parce que moi, ce qui me surprend le plus aujourd'hui, c'est la tentation c'est l'arrivée néolibérale dans l'Europe qui fait qu'en fait la non reconnaissance du statut associatif, c'est la meilleure façon d'imposer l'entreprise comme l'opérateur économique sur lequel on s'appuie. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas à d'autres opérateurs que l'entreprise d'avoir des activités économiques.
Voire même pire, on reconnaît au monde de l'entreprise le fait de faire de l'entrepreneuriat social.
Social,
oui, c'est ça.
Et donc voilà.
Et qui le ferait mieux, et de manière, avec des recettes plus, donc, plus ajustées, côté, un meilleur management, une meilleure gestion, meilleure gouvernance.
On ne reconnaît pas les associations comme étant des opérateurs économiques, pouvant avoir des actions économiques, et dans le même temps, on favorise l'entreprise en disant l'entreprise, elle peut aussi avoir une mission sociale. Mmh. Et là, demain, on se retrouve avec des entreprises à mission qui ont des avantages fiscaux, qui peuvent bénéficier des fonds européens sur la dimension FSE, etc., tout ce qui au départ nous était réservé, et nous, on n'existe pas et on est mort. Tu vois ? Donc il y a quand même un enjeu politique à défendre. À défendre au-delà d'arguments purement de financement, et à défendre le concept même d'association. Quoi. Moi, je crois que...
Mais l'entreprise grignote, et on est tous appelés entreprise à un moment donné. Enfin,
ouais.
Moi, j'entends, quand les CMA français, donc je suis aussi membre du conseil d'administration des CMA français, ils se présentent à la fois comme mouvement, mais à la fois comme entreprise. À un moment donné, on doit combiner des identités qui sont celles-là avec notre conseil d'entreprise, etc.
Parce que tu gères des salariés, tout ça, les procédures d'embauche, c'est un droit du travail.
Quand on a fait la loi de 2014 en France sur l'ESS, au départ, on est parti, la volonté à la fois des acteurs et du gouvernement de l'époque, c'était Benoît Hamon, c'était d'aller vers une loi cadre de l'ESS. Mmh. Donc la loi cadre de l'ESS, c'était une loi moins de 10 articles, donc très peu d'articles, et qui donne un cadre. Qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, on pense ? On a écrit tout le premier travail qui a été fait sur la loi, c'est d'écrire le préambule. Quand tu prends le préambule de la loi de 2014, que tu ne trouves pas aujourd'hui dans la loi déposée, qui a été ratifiée par l'Assemblée, etc., c'était vraiment définir c'est quoi l'économie sociale et solidaire. Une autre manière de faire l'économie, une autre manière de concevoir l'économie avec des valeurs, etc. Sous la pression des parlementaires et des acteurs, des familles d'acteurs, ils ont fait évoluer la loi et on n'a plus une loi cadre de l'ESS, on a une loi des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une loi qui devait définir une autre manière de faire économie à une loi qui vient réglementer tous les avantages des entreprises de l'ESS. C'est quand même assez incroyable ce glissement. Et le préambule qui avait été écrit, il a complètement disparu. Il a disparu, c'est-à-dire on l'a viré. On a gardé que le réglementaire. C'est-à-dire que la loi commence par qu'est-ce que c'est qu'une entreprise de l'ESS ? C'est une entreprise qui, et puis hop, elle définit le périmètre de l'entreprise.
Du coup, la droite, ça,
donc plus de citoyenneté là-dedans, plus de remise en cause d'un système dominant, d'une économie dominante, tout ça a été balancer à la poubelle. Je pense que ce combat-là, nous, on a accepté la loi de 2014 comme un progrès, parce qu'effectivement, ça permettait de faire reconnaître le statut, la subvention, ça permettait d'avoir une définition de l'innovation sociale. Il y a plein d'avantages à cette loi. Mais on est sortis, nous, comme grands perdants de cette aventure, puisqu'on avait perdu le combat de faire reconnaître l'économie sociale et solidaire comme une autre manière de concevoir l'économie. Donc pas de place du citoyen, pas de place de l'activité citoyenne en tant que telle, pas de reconnaissance des collectifs citoyens.
Oui, donc on a réduit à nouveau la loi à sa portée technique et on a enlevé la question politique d'un autre modèle. Quoi.
Tout à fait.
Mais elle a ouvert la porte aux entreprises.
Ah, par contre, elle a ouvert la porte aux entreprises. Ah oui, mais alors, statut ESUS. Hein. Faut quand même mesure garder sur qu'est-ce qu'on a ouvert. Parce que, en fait, c'est très facile au nom de la loi maintenant de dire « moi, je suis entreprise commerciale, mais je veux m'inscrire dans les valeurs de l'ESS ». Pour faire ça, tu es obligé de passer par les décrets d'application de la loi qui définit ce que c'est qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, tu t'aperçois que c'est le statut ESUS, quoi. C'est l'agrément ESUS. L'agrément ESUS, c'est quand même un agrément qui est pas si facile que ça. Et où, alors on parlait tout à l'heure, tu peux monter une association et puis faire du... Pour le coup, là, tu es en statut d'entreprise commerciale, mais pour être reconnu ESUS, il faut que tu justifies qu'il y ait les écarts de rémunération à l'intérieur de l'entreprise. Il faut que tu justifies qu'une partie des bénéfices sont bien réaffectés au projet et pas distribués. Il faut, tu vois, tu as plein de critères qui font qu'à mon avis, il y a des entreprises ESUS qui sont plus vertueuses et plus dans l'esprit de l'ESS que certaines associations qui n'ont rien à péter et qui ont un statut associatif, mais qui pour le reste sont des entreprises classiques. Quoi. Donc c'est là où on voit que c'est plus tordu que ça.
Et à mon sens, il ne faut pas qu'on considère les... Enfin, il faut qu'on considère peut-être des entités uniques, donc une entreprise ou une association, mais je pense qu'il faut les considérer dans leur environnement partenarial, etc. Parce que si on ne considère que... Enfin, ce que tu appelles une ESUS, là, moi je ne sais pas ce terme-là, mais à mon avis, tu peux facilement dire je fais une filiale ou une entité qui répond au cahier de charge de ça, et donc je peux m'en revendiquer, et en même temps tout le reste sur le côté, et je fais des facturations de l'un à l'autre, et je m'arrange pour que, effectivement, je réponde au cahier de charge de l'économie sociale et solidaire, tel que. Hein, mais en même temps, à côté, je m'aménage un espace de liberté qui me permet quand même de faire comme j'ai envie, et donc je trouve que là, il y a.
Mais là, tu vois, c'est pareil, la question du contrôle, parce que quand ils ont mis la loi, le décret d'application de ESUS, là encore, c'est la préfecture qui prend la décision de t'agréer ou pas. C'est le seul agrément qu'il y a dans l'ESS, parce que tu ne demandes pas d'être agréé comme association, tu déposes tes statuts. Une coopérative, c'est pareil, tu crées là, tu demandes un agrément qui te fait reconnaître comme appartenant au périmètre de l'ESS. Et donc, c'est les préfectures. Et là, ce qui est demandé dans la révision... Il y a plusieurs structures qui demandent à ce que ces agréments soient pas du ressort uniquement de la préfecture, mais soient du ressort de la préfecture et des CRES. Parce que les CRES, en France, c'est les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, que la loi de 2014 a reconnue et instituée, puisqu'elle a même créé une chambre française. Donc elle les a instituées comme... Alors elle n'aura pas donné le statut consulaire comme chambre de commerce ou chambre de métier, mais ils sont pas loin de l'avoir. Et une des raisons pour lesquelles elle ne leur a pas donné, et qui est maintenant une obligation des CRES, c'est d'être un espace de représentation de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire de la région. Ce qu'ils sont très très loin de faire. Aujourd'hui, toutes les entreprises de l'ESS adhèrent pas, et toutes les organisations de l'ESS adhèrent pas aux CRES. Hein, voilà. Si elle avait réussi à faire ça, elle serait reconnue comme consulaire. Mais en tout cas, ils demandent à ce que donc renforcent le contrôle en disant c'est bien les décrets, mais nous on veut pouvoir contrôler ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué. Le SS et l'association, c'est quand même.
Moi, un truc qui me turlupine, qui me chipote aussi, c'est. Quand on nous interpelle comme structure économique,
ouais.
On nous interpelle sur la question des coûts et des bénéfices qu'on engendre. Donc les coûts, c'est les subventions qu'on reçoit. On a une charge de la société. Et après, on génère du chiffre X ou Y, peu importe. Et pour peu qu'on génère du chiffre, on serait soupçonné de s'en mettre plein les poches. Enfin, après, il faut voir comment on le réinvestit, etc. Et je me dis, on est assez peu considérés comme des acteurs économiques. au regard de l'emploi qu'on fait vivre, en réalité, oui, au regard des services qu'on rend à la population. Et je trouve qu'il faut qu'on arrive à sortir de la vision qui est, sur le plan économique, ou bien vous gagnez du pognon, ou bien vous n'en gagnez pas, et ça vous labelliserait, enfin, ça vous mettrait dans un camp ou dans un autre. Et par ailleurs, vous vous considérez comme un coût. On est bien plus que ça. On est bien plus que ça. Et moi, je disais en Belgique l'autre jour, je trouve ça intéressant de regarder dans les politiques de l'État quels sont les montants qui sont consacrés au développement économique pur et dur, marchand, et de se dire, ben voilà, on assainit une friche industrielle pour refaire une zone d'entrepreneuriat artisanal, j'en sais rien. Enfin, combien ça coûte? On soutient des structures pour qu'elles développent de l'innovation, machin. Combien ça coûte? Et de mettre en parallèle combien on subventionne le secteur associatif sur des missions d'intérêt général, etc., social, et combien est-ce qu'on subventionne le monde privé pour pouvoir faire de l'économie.
Exactement.
Et je serais très curieux de voir où situe la balance. Et je pense que là où on se voit considérer aujourd'hui régulièrement comme un coût, je pense qu'on n'en serait pas plus un que le champ économique pur et dur en réalité, sauf que jamais il ne s'appelle comme ça. Lui, il rapporte de l'argent, nous, on en coûte.
Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Écoute, cette étude-là, elle avait été faite par le délégué à l'ESS de la région PACA sur la région PACA. C'est-à-dire là, on n'est pas au niveau national, mais sur les budgets attribués par la région. Et lui, il disait que le lucratif privé classique, donc le BTP, etc., les grands, étaient 10 fois plus subventionnés que le secteur associatif, 10 fois plus, alors qu'on critique toujours les subventions aux associations, alors qu'il disait, mais vous êtes 10 fois moins subventionnés que le secteur lucratif marchand, qu'on subventionne beaucoup plus, à travers des formes des fois incroyables. Une entreprise qui s'installe, on lui fait l'autoroute, on lui met le train qui vient là, etc. Donc ça rentre même pas, c'est encore plus, quoi.
Et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi ce que, quand tu parles de coût, à un moment donné, entre coût et investissement, si tu prends une politique éducative ou un établissement scolaire, c'est un coût, c'est un investissement. Et comment tu le qualifies? Alors, c'est là aussi que c'est important de changer un peu ces notions-là.
Et puis ça renvoie au débat qu'on a eu hier, sur la question des impacts, l'impact social. C'est-à-dire que là, c'est de la mesure d'impact que tu demandes. Or, en même temps, c'est très à la mode aujourd'hui de faire ça. C'est vraiment aller dans le sens de tout ce qui se fait sur la finance à impact aujourd'hui, qui dit ça, en gros. Ils disent, nous, on est des financeurs, on est prêts à investir dans le champ du social, de l'intérêt général, etc., en prêtant de l'argent sur la base du fait que l'argent qu'on prête va servir à faire des économies aux collectivités locales qui, du coup, pourront rembourser le prêt puisqu'ils auront gagné de l'argent. Et donc, là, il y a un risque de ça, d'aller dans ça. Donc, c'est à toucher avec des pincettes.
Oui, mais par exemple, tu vois,
pour nous défendre, on donne de l'argent aux libéraux pour...
La Suisse, ils avaient fait une étude sur les structures d'accueil de la petite enfance en termes d'investissement et pas de coût. C'est-à-dire que derrière ça, ils avaient dit combien d'emplois ça avait permis à des femmes combien de femmes avaient pu accéder à l'emploi, en fait, c'est plutôt ça. Comment ça avait créé des emplois sur un territoire donné, comment ça avait redynamisé un quartier ou un truc comme ça. Donc c'est une étude qui est pas toute jeune, maintenant, qui doit avoir 10-15 ans. Mais je trouve que c'était intéressant de changer l'investissement, ce qu'on appelle des coûts, quand on va créer une société petite enfance, comme quoi ça avait au contraire généré beaucoup de choses derrière et que c'était un investissement sur l'avenir très très important.
Oui, il y a des calculs qui existent en disant investir 1 euro en petite enfance, c'est 4 euros de gagner dans la politique de réparation.
Mais ça, nous, on l'utilise très peu, enfin, on le fait pas.
C'est l'objet de notre discussion à 17h. Hein. Comment rendre compte de ce qui compte vraiment, avec tout le débat justement sur. C'est comme tu dis, le prendre avec les pincettes, c'est pour le coup Marianne qui y animera et qui
sera critique
sur jusqu'où on va dans ce qu'on mesure, parce qu'à un moment, en effet, cette logique de la mesure de l'impact social, c'est aussi de continuer à mettre des lignes et des colonnes pour savoir dire ce que ça coûte. Et de ce fait que ça coûte et ça rapporte, en même temps, quand tu vas dans ce champ-là, tu es aussi en train de construire les arguments et les éléments pour transférer ça au marché, parce que vous avez bien vu, vous dites que ça a de la valeur. En fait, tu vois, c'est vrai que c'est toute cette difficulté. Mais dans les projets, c'était dans une discussion hier à la MEL, lundi soir, mais c'est avec des projets, typiquement, j'illustre, mais c'est parce que on accompagne des défis citoyens autour des questions de s'engager dans des démarches d'économie, sur l'énergie, sur les déchets, sur l'alimentation. Et en fait, donc ça se mesure globalement sur les éléments. Enfin, voilà, typiquement, une famille s'engage pendant 5 mois sur la base d'éco-gestes à réduire ses consos, enfin, voilà, à être attentive et donc à un impact dans la réduction de ses consos. Actuellement, en fait, réduire ses consos d'Elex, ça ne peut pas nécessairement réduire la facture, mais en tout cas, ça peut être, ça la contient. Enfin, mais au-delà de ce qui est mesuré pendant le temps du défi, en fait, c'est un cheval de bataille que j'ai, c'est ce que cela génère à côté comme engagement, c'est les effets bénéfiques collatéraux.
Oui, c'est
ça. Il y avait là, pour le coup, donc c'était, ça s'appelle le Club Climat, c'est donc, il y avait des élus, des représentants techniques, de à peu près une quarantaine de communes, la métropole c'est 90 communes, il y avait une quarantaine qui étaient là. Et il y a juste un seul témoignage que je peux retenir, c'est une, pour le coup, Mélanie Roux, qui aujourd'hui est conseillère municipale commune de Bourdin. Et en fait, elle est intervenue, mais en fait, globalement, elle dit que si elle ne s'était pas engagée dans ce défi, elle ne serait pas allée plus loin, elle ne serait pas engagée finalement dans sa commune en politique pour pousser des projets autour de la transition dans sa commune. Mmh. Et je trouve que c'est une illustration. Enfin voilà, c'est, pour moi, c'est ça le coup. Donc,
et non mesurable, complètement non mesurable en réalité.
C'est complètement non mesurable et tu ne l'as pas dans ton radar, tu ne sais même pas que tu vas collecter ces machins-là. Donc tu peux, dans le meilleur des cas, réussir à mettre les radars grand ouverts, à collecter des témoignages individuels de gens qui ont un parcours et qui te disent en fait cette rencontre, ce temps-là, ce machin a été un élément qui m'a emmené, parce qu'en vrai, il y a ça, mais il y a d'autres choses qui ont contribué. Mais tu vois, là, je trouvais que son témoignage était quelque chose de très illustratif. Ah, mais regardez, en fait, c'est quelqu'un qui ensuite continue de s'engager dans sa commune. Et c'est ça qu'on cherche. Alors, certes, vous voulez savoir combien on économise en termes de kilowattheure sur le territoire. Certes, c'est une dimension importante, mais en vrai, ce truc qui est effet bénéfique collatéral, qui sont dans tous les projets que l'on porte, en fait, tous ces trucs que tu n'as pas réussi à inscrire au début, c'est ça que je vais mesurer à la fin. Tu mesures des choses et puis en fait, il y a des tas de choses qui se produisent. Et heureusement, et c'est à ça que ça sert, c'est ça cette éducation populaire, quoi. C'est cette, cette capacitation que tu développes dans la montée en compétence des gens. Et ça, c'est de l'investissement. Pour
et ça, moi, on a exactement la même chose dans les structures Petite Enfance. Moi, je sais que j'ai monté un projet à Hobby, tu vois, c'était minière, etc. Où on a une femme d'un quartier populaire qui n'avait jamais participé à quoi que ce soit en termes de vie associative. Nous, on a dit, si on veut des structures à participation parentale, ça veut dire que des parents doivent avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir aller discuter avec la CAF, avec la mairie, avec le conseil départemental, sans se faire rétamer ou passer pour le petit, l'habitant alibi, quoi. Voilà. Donc, on les informait, etc. Et donc, c'est des gens qui, après, elle a été membre de ce petit groupe de parents, puis elle a été administratrice de la structure parentale et elle est devenue élue municipale et elle a défendu, enfin elle est devenue conseillère petite enfance, enfin adjointe déléguée, etc. Donc il y a eu une montée en compétences d'elle, mais aussi d'elle au sein de son quartier, avec tout ce que ça veut dire. Quoi.
Du coup, à vous écouter, je me dis, est-ce que le combat politique qu'on doit mener sur les associations à l'échelle européenne, c'est pas plus de faire reconnaître les associations comme un espace d'engagement citoyen qui crée de la citoyenneté européenne autour des, parce que là les valeurs et les principes, tu regardes de l'Europe, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des citoyens engagés au sein de l'Europe, des gens qui peuvent participer à la vie sociale, qui peuvent participer à la démocratie, etc. Est-ce que finalement, on n'a pas plus un combat politique à mener sur faire reconnaître le rôle des associations sur ce champ-là, plutôt que d'aller se confronter à une réglementation par rapport aux entreprises, où là, on est à peu près sûr de se faire broyer par un côté ou l'autre, de faire reconnaître ça avec justement ces trucs autour de EduPop, accès à la citoyenneté, droit à l'expérimentation. Et tu vois, sur des choses comme ça, plutôt que d'aller marcher sur les plates-bandes de l'entrepreneuriat social, où là, on est à peu près sûr que de toute façon, on est dans un combat qui va être perdant-perdant. Dans tous les cas, on perd toujours, quoi. On sera soit on arrivera à avoir des réglementations qui nous protègent, mais du coup qui s'imposent à nous et qui nous enferment dans un rôle économique qu'on n'attend pas, soit on va perdre des batailles par rapport à des gens qui vont revendiquer plus. Je me dis, est-ce qu'on n'a pas, si on doit défendre le statut européen, ce ne serait pas plutôt sur ce droit aux citoyens à s'associer autour de l'accès à la citoyenneté, l'accès à la démocratie.
Mais dans ce que tu dis, c'est important, et en même temps, la première initiative citoyenne européenne, parce qu'on a eu les ICE, la première initiative citoyenne européenne, ça a été ces associations catholiques anti-choix, c'est eux qui l'ont menée, parce qu'il fallait X signatures de 7 pays, etc., et qu'eux, ils sont vachement organisés parce qu'ils avaient derrière toutes les églises en Pologne, en Roumanie, en Hongrie. Il fallait, je crois, 7 pays, donc ils ont obtenu les signatures. Alors, heureusement, l'Europe ne l'a pas portée et a refusé de la reconnaître comme initiative citoyenne, mais c'était One of Us, vous pouvez regarder, ça s'appelait One of Us, un de nous, et au nom du droit à la vie qui est inscrit dans l'Europe, ils ont pris le droit à la vie comme étant la vie depuis le début, l'embryon, jusqu'à la mort. Donc toutes les associations type ADMD, c'est des mortifères. Et les associations planning, puisqu'on tue la vie dès le début. Orban a inscrit dans sa constitution hongroise la vie dès la conception. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on... Donc ils se sont revendiqués comme initiative citoyenne européenne.
Mais
c'est...
donc, du coup, c'est ça qui.
Tu vois,
faut...
c'est dingue, quoi.
Est-ce que c'est pas une stratégie de vouloir porter à l'échelle donc, européenne une initiative citoyenne qui pose le droit des citoyens à s'organiser en association à but non lucratif pour développer des activités? Déjà, ce serait.
Je sais pas. Non, mais il faudrait avoir des. Mais c'est...
Je vous invite à parcourir les couloirs de cette maison. Vous avez peut-être vu des portraits. C'est des portraits d'un projet qui s'appelle Récapas, qui ouais. s'est fait entre les MDA de Roubaix, de Tourcoing, la maison d'association. De tournée, et en fait c'est reconnaissance des parcours et des qualifications associatives, en fait. Ouais. En fait, tu vois, ça incarne, c'est que ça, en fait. Ouais. C'est que ouais. ça, c'est, tu regardes les portraits, tu vas faire le flash code, et en fait tu, voilà ce que dans son parcours individuel la personne a vécu dans son engagement associatif, et ce que, mais ça ne peut être, enfin moi je pense que ça ne peut être que sur des témoignages, en fait. Il y a
bah ouais.
pas mal de choses, c'est des récits, en fait. Il faut réussir à porter la dimension de ce récit, de ce que ça transforme dans la vie d'une personne, de ce que comment ça l'enrichit, quoi. Parce que c'est, en fait c'est, je trouve ce projet là qui est, c'est pour ça qu'on a souhaité que ça reste maintenu pendant l'unif du CAC, parce que c'est ça le fond du sujet, ce qui fonde nos engagements, quoi. C'est comment on arrive à progresser alors dans un projet humaniste, et c'est peut-être un c'est peu la difficulté à faire entre, il y a des gens, certainement des one of us, qui se disent mais nous regardez un peu le projet que l'on porte, c'est
voilà, celui, on défend la vie,
on défend la vie, et regardez comme il est humaniste, c'est notre projet, mais en fait bon, toute la, elle est difficile la limite, hein, par rapport,
elle est très compliquée.
On avait une heure, je crois qu'on arrive au terme,
c'est 11h30, j'ai regardé le timing,
11h30,
ouais. On a un peu de temps, quoi.
Mais c'est vrai, c'est hyper compliqué. Enfin, comment est-ce qu'on on reconnaît, enfin, pour moi, c'est par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes, la question de la citoyenneté, tout ça fait partie du programme européen. Et aujourd'hui, c'est évalué par des standards, mais auxquels presque tout le monde peut accéder, quoi. Donc, comment est-ce qu'on, enfin, ce que tu dis est très juste. Hein. Quelle est la limite? Elle est tiny là entre les. Des projets qui sont vraiment... puis la démocratie, enfin, quand tu vois les pays comme la Roumanie aujourd'hui, la Pologne, la Hongrie, enfin, comment est-ce qu'on définit cette notion de démocratie, quoi?
Mmh. Alors, bah,
la notion d'état de droit, enfin, on est vraiment
plutôt,
là-dedans, quoi.
Moi, j'ai plutôt une bonne nouvelle, c'est que quand on a constitué le RIPES Europe, donc Réseau Intercontinental pour l'économie sociale et solidaire, c'est un réseau qui est né... en 97 à Lima, qui est plutôt, qui est pas du tout dans les réseaux de l'économie sociale classique instituée, mais qui était plutôt remonter toutes les initiatives qui existent dans le monde, qui s'inscrivent dans un projet de transformation sociale et sociale. Donc le RIPES s'est structuré, et en Europe on a mis du temps à structurer un réseau, et quand on a commencé, je crois que c'était en 2010, le RIPES qui a été créé, il y avait des Belges, des Français, des Italiens, des Espagnols, en gros, tu vois. Et tout le reste, ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, il y a 42 pays européens, 42 structures qui sont membres du RIPES Europe et qui représentent à peu près 22 pays, 22 ou 24, pays européens. Et dans les 24 pays européens qui sont représentés, ce qui est assez étonnant, c'est l'arrivée massive des Roumains, Croates, Polonais, Tchèques, toute l'ancienne
Europe de l'Est,
et a rejoint. Donc on est parti, quand il y a 10 ans, c'était... l'économie sociale et solidaire, ça leur faisait très peur parce que c'était une forme de collectivisme qui leur rappelait franchement un peu l'URSS, en tout cas une vision communiste du monde. Et puis ils ont complètement dépassé ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui arrivent là-dedans et qui découvrent ça comme une opportunité pour lutter contre le néolibéralisme qui arrive de manière massive dans ces pays et qui alors je pense que c'est aussi traumatisant que ce qu'ils ont vécu avant. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Il y a beaucoup de sociétés civiles qui s'organisent dans ces pays et qui veulent lutter contre ces formes d'organisation, qu'elles soient catholiques, anciennes apparatchiks, etc., et qui veulent renouveler tout ça. Donc moi, j'ai plutôt de l'espoir de ce côté-là. Je me dis,
Ils n'ont pas trop le choix, parce que tu vas en Pologne, par exemple, tu as des villes qui se sont clairement, par exemple, désignées anti-LGBT. Mm. Donc ça veut dire qu'on met clairement en danger les personnes qui sont gays, lesbiennes, etc. Donc affichées, quoi. C'est-à-dire que des associations de jeunes te disent « Moi, j'ose plus me promener dans la rue sans, j'ai peur de me faire tabasser. » Donc ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a quatre juges polonais là, s'ils avaient créé les chartes des villes anti-LGBT, etc. Enfin, ils ont réussi à faire ça. Mmh. C'est-à-dire, au niveau d'une commune, ils arrivent à créer des choses comme ça. Quoi. Mmh. Donc, c'est pas que un gouvernement et des juges. Enfin, ils ont vraiment... Alors, Yuri, ça a étalé sa pieuvre un peu partout.
Oui, après, c'est...
Donc, il y a des juges qui, quand même, réussissent à lutter contre
de
ça.
La population mais, qui
est... Et à déclarer ces chartes comme étant irrecevables et anti... pas du tout acceptables dans une optique droit humain, européenne, etc. L'Europe a dit qu'elle allait définancer les villes qui s'affichent comme ça. Il faut que l'Europe aille jusqu'au bout, hein, par rapport à ça, sur les notions d'état de droit avec la Pologne. Enfin, il faut aller au bout de ça, quoi. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui,
c'est compliqué,
hein. On est prêt à faire des compromis, hein, à tous les niveaux. Hein. La Pologne, elle accueille les réfugiés ukrainiennes, mais les réfugiés ukrainiennes, elles n'ont pas le droit, même celles qui ont été violées, elles n'ont pas le droit d'avorter en Pologne, hein. On en est là quand même. Hein. Et elles sont accueillies par des organisations anti-choix qui les dissuadent d'avorter, les encouragent à mettre au monde des petits-enfants blancs qui seront bien adoptables par rapport à des petits-enfants immigrés dont on ne veut pas. Quoi. C'est quand même ça la Pologne aujourd'hui. Hein. Et la Hongrie aussi. Donc, comment est-ce qu'on soutient en fait les initiatives démocratiques et citoyenne par rapport à des projets comme cela, quoi. C'est
bien, quoi. Ouais, le côté encore plus vertigineux, c'est qu'on cite donc depuis tout à l'heure la Pologne, la Hongrie, et on regarde un peu ce qui vient de se passer en France.
Exactement. Bah, oui, oui.
L'Assemblée nationale,
c'est. Enfin, c'est voilà, dingue.
C'est un fond, là. Enfin, moi, je trouve que c'est hallucinant, cette dérive de cette Europe-là. Où est le projet initial, enfin, moi, parfois je suis un peu
désespéré. Ça fait peur, hein. Ouais, parce que problème, ça démarre un peu comme ça aussi.
Ah, ouais,
ils sont arrivés légitimement au pouvoir, démocratique.
De toute façon, ça arrive. Et en plus, je sais s'il la joue dans la liaison, quoi.
Exactement, ça devient un projet tout à fait normal, quoi. On les reconnaît, c'est une dédiabolisation de ces...
Bon, alors,
eh ben voilà qui
au les cœurs.
Ouais, mais c'est la réalité quand même. Hein. Donc, c'est sur quoi on tient bon, nous, au niveau européen aussi, quoi, en termes de soutien et tout ça. Quoi.
Je notais, quand tu disais dédiabolisation, je me dis, en fait, dépolitisation et dédiabolisation, ça rime, en fait. Est-ce que c'est pas deux... De choses qui vont de pair,
mais bien sûr.
Moi, je participais la semaine dernière à un programme européen, c'est là que j'ai rencontré, qui s'appelait De-Democratization. Ouais. On est en plein là-dedans, en fait, avec des universitaires et des sociétés civiles, et je trouve qu'on est en plein là-dedans, quoi. Mmh. Comment on arrive à des processus qui. En accédant de façon démocratique à un pouvoir, on arrive à à effectivement foutre en l'air la démocratie. Quoi.
Ouais, tout se vaut et sous l'angle de la liberté d'expression, on va laisser ouais. tout dire. Ouais. Et voilà, et donc c'est le débat démocratique, soi-disant. Bon, moi, je retiens comme ça de lui ici, enfin, j'ai l'impression que tactiquement ou stratégiquement, le fait de remettre la question politique, éthique, valeur fondamentale en avant, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener un combat sur les questions économiques, etc., mais c'est pas celui-là qui doit être prioritaire. J'ai l'impression que celui-là, il doit venir après. Il faut d'abord gagner le combat d'une reconnaissance à l'aune des valeurs européennes ou à l'aune d'un certain humanisme, mais alors il faut qu'on en détermine les frontières, peut-être, oui. humanisme. Parce que sinon, on va s'empêtrer dans un combat autour de l'économie où on part avec 10 km de retard et pas le bon vélo pour attraper ceux qui sont en tête. Quoi.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Il faut voir comment on la joue là-dessus.
Et puis, effectivement, il y a la question de la place des... Enfin, dans ce que tu dis là aussi, moi, ce que j'entends, c'est, au niveau de l'économie, la place des États et de la société civile, comment est-ce que on travaille ensemble sur...
Comment est-ce qu'on réinstaure, pour moi, un cadre partenarial et pas un cadre de sous-traitance, d'allégeance, de mission déléguée, qu'on
Bras
assume...
Armés d'eux, etc. Quoi.
Parce que ça, je trouve que c'est très, très présent... face à pour moi une nouvelle génération de fonctionnaires ou de gens de l'administration publique où ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait, ils sont avec des protocoles et des règles pour analyser les pratiques, mais en fait ils ne comprennent pas, et donc on en vient à parler des chiffres produits, on en vient à parler de choses mais qui sont absolument sans intérêt en réalité, mais on ne parle pas la même langue en fait. Et pour moi il y a tactiquement aussi à travailler à la formation des administrations.
Mais comment t'accèdes, comment t'arrives à placer, alors on pense dans les parcours du CNFPT, justement l'enrichissement de ces publics qui sont plutôt quand même un grand renfort du New Public Management, c'est cette tonalité là, et là tu viens proposer quelque chose qui est complètement dissonant, et quelle place t'arrives à trouver pour aller placer cette proposition CNFPT où de toute façon on ne viendrait que ceux qui y sont intéressés. Et je trouve que c'est aussi un vrai sujet, c'est celle de l'éducation, la formation, on sait bien qu'elle est un levier fondamental d'évolution des sociétés. Et là, en l'occurrence, il y a peu, en tout cas, ça pourrait être une proposition, peut-être à sortir, là, je vois le texte qu'on va sortir de cette université, mais c'est quelque chose de ce champ-là. Comment on arrive, association citoyenne, à porter aussi à ce niveau-là ce levier administratif important des fonctionnaires, toute leur bonne volonté, mais à un moment, de voir les faire rencontrer, parce que ce ne sera pas dans leur parcours individuel, ce ne pas des gens qui seront issus d'un parcours associatif et qui n'en connaissent pas vraiment les arcanes, et qui voient ça en effet de façon très... ils lisent ça comme des opérateurs économiques comme d'autres, quoi. Et je trouve qu'il faudrait réussir à mettre ces gens-là en situation de rencontrer, de comprendre un peu. Et je ne sais pas à quoi doit ressembler le module de ce qu'il faut proposer, mais enfin, voilà, les histoires qu'on raconte ici, c'est rien que de faire entendre, permettre à des gens comme ça de comprendre et de s'immerger dans une réalité associative de différents projets associatifs qui les entourent, qui sont en plus une réalité de... Enfin, c'est, quand il y a eu dans les mouvements, ben justement, les mouvements du CAC, non à la disparition des associations, je me souviens de ce qui avait été... poussé comme idée, c'est le jour de la grève générale des associations en France. C'était pour voir à quoi, finalement, c'est toutes les assos, puisqu'on
Fait des années que j'ai regardé ça.
Hein.
Moi, je dis, ça fait des années que je me bats là-dessus, mais je dis, si on organisait une journée de grève, ne serait-ce qu'une journée de grève, où l'ensemble des associations s'arrête de bosser le jour-là, alors s'arrête de bosser pas forcément fait comme dans les hôpitaux, en grève, mais où on voit clairement qu'il est en grève et où on voit que ça perturbe l'activité développée par les associations, ça serait impressionnant. Parce que là, du coup, dans une journée, une personne, un citoyen lambda qui ne sait pas ce que c'est que les associations, il arriverait à la crèche, elle est fermée, il a écrit en grève, il irait, ah bah tiens, c'est encore fermé, il voudrait aller dans, ah bah merde, mon magasin il est fermé, bah oui, tout ça c'est des associations, et il se rendrait compte de la place des associations dans sa vie de tous les jours. Et ça, on n'y arrive pas. Ne serait-ce que faire ça, c'est impossible. Demande à toutes les associations de le faire. Elles vont toutes trouver une bonne raison pour ne pas suivre un mouvement. Et ça, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, je pense que le travail à faire pour faire reconnaître les associations, il est aussi important en interne au mouvement associatif que dans la revendication.
Et faire reconnaître une journée internationale des associations citoyennes.
Voilà.
Ça me paraît être
une journée internationale. Une journée internationale.
Après, il faut confondre sur la date.
Oh là là là
là. Ça, c'est un beau projet pour l'Europe.
Oui, ou se saisir, se saisir de journées qui existent en Belgique pour le public. Des gens qui travaillent dans le périscolaire, l'accueil du matin ou du soir, ça, dans les écoles, ouais. Etc. On a choisi la journée mondiale de l'éducation pour travailler sur leur statut. En disant que ces gens font partie de l'éducation, ce n'est pas des adjuvants de quelque chose d'autre, ce sont des vrais acteurs.
Des prestataires de services de la commune d'Intel.
Oui, voilà. Et donc on s'appuie sur le 24 janvier, qui est la journée internationale de l'éducation. Ah. En disant qu'on le fait ce jour-là pour revendiquer qu'ils sont dans le champ éducatif et que ça doit être professionnel avec des statuts et pas des trucs bricolés sur le côté et avec une vraie reconnaissance. Je dis, on pourrait peut-être aussi un peu sonder les journées internationales lesquelles existent et sur lesquelles on pourrait s'appuyer.
Il nous reste un quart d'heure, on essaye de faire une petite synthèse. Là, tu as commencé à essayer de remplir le truc ou pas?
J'ai mis mon nom déjà.
C'est pas mal. Quelles sont les deux ou trois conclusions essentielles du débat?
Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on disait juste avant?
Je pense que la dimension politique plus qu'économique, là. Ouais. Je pense que la stratégie, elle est du côté de faire reconnaître la dimension politique plus que se battre dans une logique de réglementaire, quoi. Économique, autour de l'économie.
Mais il faudra le faire aussi, quoi. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que le débat réglementaire.
Ouais, les deux sont nécessaires.
Emporte sur le projet et les valeurs portées, quoi. Tu vois, quand je pense sur l'accueil des réfugiés, par exemple, on dit la Pologne accueille. Mais qui à Pologne accueille aujourd'hui? C'est les assos, hein. C'est pas l'État, hein.
Non.
L'État, il n'en a rien à faire.
C'est les associations et les citoyens.
C'est les associations de terrain qui se démerdent pour aller chercher des fonds, qui affrètent des camions, qui vont chercher des réfugiés à la frontière, etc. Et à ce titre-là, ils vont avoir du fric de l'Europe qui va arriver à l'État polonais et pas aux assos. Hein.
Moi, je retiendrai dans cette partie-là qu'il y a quand même un travail à faire sur la dimension, sur la définition de la non-lucrativité en Europe, parce que quand même, ça reste quelque chose sur lequel il faut qu'on clarifie. Quoi. Ça ne peut pas être perçu par certains comme c'est le service qui est gratuit et par d'autres, c'est une lucrativité limitée, même si c'est quand même une histoire plus économique. Et j'ai retenu donc cette idée d'une journée internationale des associations, et j'ai retourné l'idée que pourquoi on ne va pas vers une initiative citoyenne européenne sur la reconnaissance de l'association comme levier à la citoyenneté en Europe, quoi, pour développer la citoyenneté en Europe. Après, il y a une partie qu'on a quand même abordée, c'est la question de l'évaluation et de l'accès au financement européen pour les associations.
Notamment dans les États non démocratiques, quoi, qui respectent le temps, enfin, il y a aussi tout ça. Vous avez quoi d'autre comme question à...
Alors après, c'est quelles sont les convergences, les divergences, les points qui restent à approfondir. Alors là, pourquoi c'est à approfondir, j'ai dit. Quelles propositions pour quel changement nécessaire? Des propositions pour des actions communes, ressortent peut-être des échanges. Voilà, et après, référence bibliographique, filmique, c'est ça. Observation et complément.
Mais en fait, je trouve que l'accès au financement européen, ça dépend aussi de, vachement de ce qui est inscrit dans les fameux financements européens, les fameux projets, les programmes opérationnels.
Quoi. Les programmes, oui.
Et moi, je suis toujours... enfin, je ne sais pas, vous avez certainement eu l'occasion d'aller participer à des travaux en amont d'élaboration des PO, quoi. Moi, j'ai l'impression que quel que soit le propos qui puisse être évoqué en ces endroits-là, le processus d'écriture est une moulinette hein, quand même super longue et qui fait peu de cas aux propos comme moi j'ai entendu défendus par le tissu associatif qui était consulté, j'illustre, hein, sur le secteur des assos qui interviennent sur les questions d'éducation à l'environnement par exemple. Il y avait des tas, au vu de l'urgence, enfin, il y avait des tas de bonnes raisons de travailler, d'amplifier l'action autour de l'éducation, de la compréhension de l'environnement, de la biodiversité. Et en fait, la traduction dans les PO, elle laisse finalement peu de place pour ce qui avait semblé dans une très grande assemblée comme les éléments sur lesquels il fallait absolument que ça puisse en sortir. Alors, c'était une expression en région Hauts-de-France, l'époque où Nord-Pas-de-Calais, enfin bref, mais finalement qui aboutit à ce que dans le PO, il n'en reste rien, quoi. Et en fait, ça m'interroge beaucoup sur ces processus d'écriture de programmes opérationnels qui, ont une étape dite de consultation, de participation à l'élaboration, mais bon, ça c'est la magie de la démocratie participative. Hein.
Non. En fait, le système de l'Europe fait que il y a une espèce de leurre entre ce que toi tu peux faire comme proposition à l'Europe et la capacité qu'a l'Europe à l'entendre. C'est-à-dire que nous, on va aller définir ce qu'il devrait y avoir dans les prochain programme européen, comme on définirait ce qu'il va y avoir dans la prochaine stratégie régionale, le programme régional de développement de l'ESS. Sauf que ça, c'est pas du tout régi de la même façon. Là, tu pars d'une carte blanche et t'écris quelque chose, alors que quand tu es à l'Europe, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà un cadre qui est fixé par les programmes, et tu dois rentrer dans les programmes. C'est un peu comme si tu passes des élections municipales et que tu veux faire rentrer des principes de transition dans une élection municipale, tu arrives à des propositions concrètes que tu peux qui relèvent du niveau municipal, tu arrives avec des propositions écrites et tu négocies les propositions pour qu'ils les rentrent dans leur programme et puis ça rentre ou pas. Quoi. Alors que là, c'est un peu comme quand tu vas faire la même chose avec des députés. En fait, tu peux dire tout ce que ton député peut te dire. Oui, t'as raison, c'est ça qu'on va faire. Sauf que c'est pas lui qui va le décider. Ça va se décider dans le cadre de commissions qu'ils vont monter, où ils vont rentrer en concurrence avec plein de gens et qu'ils vont sortir à la fin avec un truc que toi, t'es tellement loin que le truc à la fin, il n'a plus rien à voir avec ce que tu voulais au début. C'est un peu ça. D'où, c'est un peu comme l'histoire de l'accès au financement tout à l'heure. En France, ce qui se passe, c'est que pour gérer les programmes européens, on a besoin d'avoir, et l'Europe s'appuie sur un certain nombre d'acteurs, d'opérateurs économiques, privés, qui sont spécialisés dans le financement européen et qui vont repérer, qui vont connaître parfaitement les programmations et qui vont par exemple repérer pour une association où est-ce que, en fonction de son programme, où est-ce qu'elle peut aller chercher toi tu pourrais faire de la mobilité machin, ah bah tu pourrais rentrer dans du FSE, ah bah toi tu peux aller là dans du FEDER, etc. Ces gens-là, ils ont une connaissance parfaite de programmes qui sont vraiment construits par des technos, hein, c'est technocratique. Donc eux, ils ont une vision de ça. Ces gens-là qui te conseillent, ils peuvent t'accompagner dans la mise en place de tes projets pour que tu puisses avoir plus de chances de les avoir. Ils peuvent t'évaluer et ils sont en même temps membres de jury qui font de l'évaluation et qui participent au jury qui choisissent les projets. C'est un peu fou. Tu as une espèce d'organisation parallèle qui se crée avec des gens qui sont des opérateurs privés, souvent associatifs. Mais pas que, il peut y avoir des coopératives, et qui détiennent un savoir que toi, tu n'as pas. Eux, quand tu construis avec eux, ils t'expliquent comment le programme il va évoluer d'une fois à l'autre, comment ça va rentrer, parce qu'ils ne sont pas du tout dans des dimensions politiques, ils sont que dans des dimensions technocratiques, c'est-à-dire qu'ils échangent avec des technos de l'Europe sur la manière, avec les agences France des pays, sur la manière de mettre en place les programmes, de les faire remonter, de faire l'évaluation, ils ont toute cette dimension technique. Et toi, tu vas rencontrer l'Europe comme si tu étais dans un espace de décision politique où on discuterait et puis qu'avec ça, on prendrait des décisions. C'est pas du tout comme ça. C'est incroyable la technocratie qu'on a développée à l'échelle européenne.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, remettre du politique, remettre de l'humain, etc. Enfin, c'est comme si, je veux dire, en France, on est à fond là-dedans aussi. Hein. Tu as des cabinets privés qui sont en train de définir des politiques publiques, en gros.
Ouais. Donc si on veut remettre de la politique là-dedans, ça veut dire que nous, on ne va pas passer par les réunions à Bruxelles, enfin à Bruxelles-ci, parce que c'est l'Europe, mais je ne sais pas où, en Belgique ou à Lille. On va aller faire de la sensibilisation politique aux élus politiques de l'Europe sur la manière dont eux, ils gèrent leurs technocrates, sur la manière dont eux, ils gèrent la mise en place de ces programmes-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une action politique à l'échelle des élus politiques de l'Europe. Donc il faut aller au Parlement, faire du lobbying, comme font les lobbyistes, pour qu'ils changent les cadres, qu'ils intègrent des trucs comme ça. Et c'est ça que, pour l'instant, du côté des mouvements associatifs, c'est très peu structuré. Qui c'est qui fait ça en Europe?
Parce que j'allais dire, il faut qu'on ait un réseau fort, beaucoup plus fort là-dessus au niveau européen.
À
mon avis, ça c'est une piste, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas structuré au niveau européen.
Il y a des acteurs qui le font, par exemple, sur la question l'écologie, etc. Je pense à des réseaux comme Ecolis, je ne sais pas si tu les connais. C'est villes et territoires en transition à l'échelle européenne. Donc, tu as les villes en transition, tu as des municipalités, etc. Eux, ils font un travail de lobbying que sur la question écologique, de la transition écologique. Mais ils ne vont pas défendre le statut associatif, ce n'est pas leur rôle. Eux, ils font ça sur ça. Est-ce qu'on a un équivalent dans le champ associatif pour défendre? On ne l'a pas. Donc, ça, c'est une étape qu'il faudrait qu'on monte. C'est-à-dire comment on monte une plateforme politique à l'échelle de l'Europe sur la question. Alors, le mouvement associatif français, je sais qu'ils travaillent au sein de Social Économie Europe sur cette question-là. Mais du coup, ils sont confrontés au fait qu'au sein de Social Économie Europe, il y a les coopératives, il y a les fondations, il y a tout ça, et que les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Donc, est-ce qu'on écoute d'abord le mouvement associatif, ou d'abord la fédération des SCOP, ou d'abord... Bon, tu vois, il y a le problème. Mais est-ce qu'on a, nous, une plateforme parallèle? En tout cas, on pourrait le faire en se disant, en plus... que dans les différents pays, je ne sais pas quelles sont les formes de structuration des associations. Est-ce qu'il y a des fédérations d'associations dans tous les pays européens où il y a un statut associatif? Parce que c'est.
Il y a des histoires distinctes dans chacun des pays.
Ouais, mais au moins le faire, il faudrait qu'on le fasse. C'est intéressant, là.
Ouais, je crois qu'il faut.
L'association. CAC Collectif 21, c'est déjà une première pierre de ça. Tu vois, si on a déjà deux pays où. Il y a des plateformes associatives citoyennes.
Donc, tu dis l'Espagne encore, l'Italie.
Ouais, il faudrait qu'on aille voir l'Espagne et l'Italie. Super, on a ça, c'est bien. On va rendre ça, ils vont être contents. Et surtout, on a ça. Tout est enregistré. J'espère que vous étiez d'accord pour vous faire enregistrer, parce que...
Maintenant,
ils vont pas laisser le choix. Elle est arrivée avec le truc déjà, enfin, en marche, elle m'a dit...
Si c'est en marche, c'est
bien. Ouais, tu vois, c'est déjà en marche.
C'est réuni directement chez Mme Chiappa.
C'est des méthodes de Mme Chiappa, ça. C'est les RG qui est en gîte. C'est les renseignements généraux, là.
Marlène, tu nous écoutes?
Ouais, on t'aime. On t'aimera si...
C'est
un peu
de...
Allez, voir le...
compte-rendu.
Le compte-rendu, il est là.
Tu as tes... Tu veux faire valoir tes...
Non, c'est là. C'est là. La sortie. Bon, bah pour un atelier improvisé, on a quand même bien travaillé.
C'est intéressant parce que comme on ne se connaît pas,
intéressant de parcours
des. Bon, ça va ? Ouais, on l'éteint comment ça ? Tu l'éteins comment ? Parce que là, je suis en train d'enregistrer. Bon, ça va, ouais. La porte qui claque. Tu sais l'éteindre ça ?
J'ai réussi à poser un peu le problème.
Ouais.
Quand tu cliques là-dessus, tu vas où ?
Il a avancé vraiment.
Ouais.
Parce que.
Du coup, peut-être que le compte-rendu va reposer pas mal sur toi ?
Il a déjà été un petit peu fait. Ouais. Et puis moi, j'ai pris des notes, ouais, je pourrais le compléter.
Ouais.
Comment t'éteins ça ? T'appuies sur le croix au milieu ou t'appuies sur... Je vois pas.
Je vais demander à Olivier.
Mmh. On va attendre d'arriver.
C'est
oui.
Voilà.
C'est que, certes, la presse, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous s'acharner sur tous les postes.
Vous savez l'état ? Ce qui tourne toujours. Il a arrêté. Moi, je vois rien.
Il est
compte rendu, je le remets à qui ?
Il y a le plus de